Backstage le podcast que nous retrouvons avec un nouvel invité puisque aujourd'hui il s'agit du premier épisode de l'entretien consacré à Gérard Cybel, producteur et dénicheur de talent au micro de Margot Delpierre sur un montage de Thomas Langlin. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur leur site backstagelepodcast.com. Je préciserai que cet entretien a été enregistré en février 2019.
Son nom ne vous dit rien, pourtant il a découvert les humoristes que vous applaudissez aujourd'hui. Gérard Cybel est producteur et dénicheur de talent. D'une MJC à l'Olympia, il les accompagne jusqu'au succès. Florence Foresti, Laurent Gérard, c'est lui. Elisabeth Buffet, Nora Hamzaoui, c'est lui aussi. Comment trouver la perle rare? L'humour est-il devenu trop accessible? Comment construire une carrière dans ce milieu parfois très dur? Gérard Cybel nous raconte l'envers du décor.
Backstage, un podcast présenté par Margot Delpierre.
Bonjour Gérard Cybel.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Comment savoir au premier coup d'œil qu'un artiste, un débutant peut devenir une star?
Au premier coup d'œil, c'est impossible. On peut avoir d'entrée senti une perception, mais jamais la première fois. Il faut revoir deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois la personne pour pouvoir discerner s'il y a des potentialités. Ce qui demande quand même pas mal de temps déjà dans la recherche, mais du premier coup, non.
Qu'est-ce que vous observez en particulier?
Ah, il y a un maître mot qui est justement le mot, qui est le verbe. J'ai toujours pensé que s'il n'y a pas de texte, et je ne suis pas le seul à le penser, il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'artiste. Et si on ne discerne pas, chez quelqu'un qui débute, une écriture qui pourra se développer, s'affirmer, apporter quelque chose dans la galaxie de l'humour, bah c'est pas la peine d'aller plus loin. Les idées peuvent venir plus tard, mais c'est la façon d'écrire, indiscutablement. C'est, on va dire, le style, en tous les cas la syntaxe, ça c'est clair. Et si on ne perçoit pas ça, au bout de la deux ou troisième vision, rencontre, je crois que c'est même pas la peine d'aller plus loin.
Le reste, ça peut se travailler?
Ça peut se travailler, oui, ça peut se travailler. J'ai des exemples autour de moi, oui, un peu coriaces d'ailleurs. J'ai mené un combat notamment avec, allons-y carrément, avec une fille qui s'appelle Elisabeth Buffet. Un jour, j'avais eu vent que dans un clan D qui se trouvait du côté de la rue Bunzenval, métro Bunzenval à Paris, il y avait un bar qui allait présenter des artistes. En fait, c'était une couverture pour présenter des artistes, un bar qui ne devait pas avoir bonne réputation. Bon, je passe et je vois des flyers, et là, complètement délavé, d'une fille où le nom était marqué en tout petit, qui s'appelle Elisabeth Buffet, et le spectacle s'appelait En gros, seule dans sa culotte. Bon, je parle au tenancier, je dis, mais elle va jouer chez vous? Elle me dit, oui, il va jouer, elle va commencer la semaine prochaine. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai été attiré par ce titre qui ne ressemblait à rien du tout, et à ce flyer qui était complètement jauni, pisseux, et je suis allé la voir, et c'était sa première représentation, et d'entrée, une claque immense, parce que j'ai découvert véritablement une écriture. Mais une écriture qui n'a pas été facile à faire passer, parce que c'est une écriture qui était proche de Rabelais. Et quand vous défendiez ce qu'exprimait Elisabeth Buffet, d'abord personne ne savait qui était Rabelais, c'était tout au moins beaucoup de personnes, c'était très très dur à faire admettre cette écriture qui était drue, qui était grasse, mais qui était vraiment pas vulgaire, contrairement à ce qu'on le disait. Et donc elle portait ça en elle, Elisabeth Buffet, une écriture encore une fois sans pareil, qui était très 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 imagée, alors on va dire une écriture célinienne. Par contre, gros problème, parce que elle avait beaucoup de difficultés pour s'exprimer, pour jouer. C'était tout juste pas possible, mais l'écriture était là. Et au fur et à mesure des mois, voire même des années, au bout, ça vient de lui demander 3 ans, elle est arrivée à avoir un début de jeu. Et le résultat est tel aujourd'hui que c'est certainement l'une des humoristes françaises qui non seulement un texte exceptionnel, mais qui a un jeu qui renverse tout. Ce qui n'était absolument pas le cas au début. Elle était voûtée, elle était penchée sur elle-même. On sentait bien qu'elle avait envie d'exprimer aussi les sentiments par des gestes, par des mouvements, par son corps. Mais ça n'était pas ça. Et il a fallu, je vous l'ai dit, peut-être bien 3 ans avant qu'elle puisse avoir un jeu à l'unisson à son univers verbal.
Qu'est-ce qui vous plaît dans votre quête? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous rendez compte que vous êtes tombé sur une pépite?
Alors ce qui me plaît, c'est un peu un pari. Parce que quand on sent que quelqu'un pourrait, mettons du conditionnel, marcher, ce qui me plaît, c'est la projection qu'on peut faire sur cette personne, sur cet apprenti artiste. D'entrée, et je ne crois pas trop me tromper, j'essaye de le projeter dans ce qu'il pourrait être dans les 2, 4 ou 6 ans. Il faut être indulgent au départ, hein, bien sûr, parce que c'est balbutiant, c'est débutant, c'est bien souvent maladroit de chez maladroit, mais on peut discerner ce que cette personne pourrait être dans les 2 ans, dans les 4 ans et dans les 6 ans, et si cette personne, si son univers pourrait être en adéquation avec les desiderata du public futur, c'est-à-dire dans les 2, 4 ou 6 ans. Ça, il faut vraiment le sentir. Et ça, ça me plaît beaucoup parce que c'est un peu un pari sur le futur. Au départ, ça me faisait peur. Je me dis, mais dis donc, pour qui tu te prends? Et puis, écoutez, chaque fois, le temps passant, ben, m'a donné raison. J'ai toujours pensé, alors on va vous parler de la plus grande. Allez, allons-y. Florence Foresti, c'est fait. j'ai toujours pensé que, au départ, Florence allait correspondre à une époque. Quand je l'ai vue pour la première fois, c'était pas si facile que ça, croyez-moi.
C'était quand? Et c'était où?
Oh, c'était, je pense, juste avant l'an 2000. C'était où? C'était à Lyon, sa ville natale. Et j'ai toujours pensé que ça pouvait fonctionner, même si il y avait un ostracisme autour d'elle. Vraiment. Ostracisme qui était dû à plein de choses. Par exemple, son jeu, qui pour moi représentait le jeu du futur, les gens ne le voyaient pas. Son écriture aussi, qui représentait l'écriture du futur, ben le public ne le discernait pas. À l'époque, quand elle débutait, elle disait par exemple « les femmes sont pompettes ». Aujourd'hui, on va dire « les femmes sont pompettes », c'est banal, mais à l'époque, on va dire au tournant de l'an 2000, « les femmes sont pompettes », ça choquait énormément les spectateurs et les spectatrices. Hein. Ah oui, maintenant, plus rien ne choque. Hein. Vous pouvez parler de sodomie, tout ce qui s'ensuit, alors là, plus rien. Mais à l'époque, et je disais « tiens bon, ne change pas ce langage, c'est un langage qui va s'affirmer dans les 2, 4 ou 5 ans ». Il ne faut rien changer, il faut résister, il faut tenir. Tu as raison, tu en avances sur ton temps. Dans le jeu, c'était pareil. Elle était d'un dynamisme sans pareil, mais je pouvais discerner en elle une chose importante. C'est que elle avait ce personnage de BD déjà en elle, et je lui disais, pousse plus le jeu, sois plus BD, parce que je pense que quand le public va te trouver par le texte, il va te trouvera aussi par le jeu. Et je lui disais, je pense que le phénomène de la bande dessinée va s'accentuer aux environs de 2005-2006, et à ce moment-là, il y aura la totale, il y aura le jeu, qui correspond à une époque, une explosion nouvelle encore de la BD, et puis tu auras les mots de l'époque. Voilà la perception que j'en ai eue.
Donc votre travail, c'est pas de trouver des gens qui correspondent aux attentes du public aujourd'hui à l'instant T, mais c'est de voir plus loin.
Indiscutablement, parce que à l'instant T, trouver des gens qui correspondent, c'est-à-dire au moment présent, il y en a plein, mais des gens qui se révéleront dans les mois futurs, c'est une autre paire de manches. Parce qu'en humour, on a 3 catégories, ça fait un peu savant de dire ça, on a la catégorie qui est la plus basse, qui est la 3e catégorie, où il y a des milliers d'artistes, il y en a peut-être 300, 400 qui sont bons, qui font le spectacle, mais pour passer en 2e division, c'est une autre paire de manches, et il y a une foultitude d'artistes qui n'y parviendront jamais. Et après, pour aller dans la première division, qui est celle des mégastars, comme Foresti, comme Gérard, comme Gad Elmaleh, comme Jamel, ça c'est encore une autre paire de manches. Tout ça pour dire quoi? Que dans la perception qu'on a en voyant un artiste au bout de la 2e, 3e, 4e fois, il faut voir en lui ce que les autres n'auraient pas. C'est-à-dire quoi? Des particularismes. Si vous n'avez pas de particularisme, ben, ça ne percera jamais, et vous resterez brillamment même en 3e catégorie, mais jamais vous passerez en 2e division. Alors qu'est-ce que c'est? Ben, je vous l'ai cité tout à l'heure, notamment pour Florence Foresti, c'était un jeu qu'aucune autre fille n'avait, et puis le langage d'une époque qu'elle a aussi su faire grandir. Là, actuellement, je suis avec un garçon qui s'appelle Reda Siddiqui. Et pourquoi fait-il la différence par rapport à tous les autres humoristes? Tout simplement parce que il a une écriture. Cette écriture, elle a un style. Et ce garçon, à ce qu'on n'a plus aujourd'hui, il a une élégance. Il a un propos. Et ce propos n'est pas un propos basique, fait de vannes. Il a une caractéristique, c'est que c'est un propos de philosophe. Donc on est loin d'être un vanneur ou un picador de la vanne. Et ce garçon, Reda Siddiqui, fait la différence parce qu'il a des particularismes. Voilà. Et si aujourd'hui, un jeune qui commence, un jeune ou un moins jeune, parce qu'on peut débuter aussi à 40 ans, et ben si cette personne qui débute n'a pas ses particularismes, pour faire quoi ? Pour faire la différence, ben c'est pas la peine d'aller plus loin.
Comment vous découvrez tous ces gens ? Vous passez vos soirées dans des théâtres minuscules ?
Oui, j'ai beaucoup passé de temps à regarder, à observer, que ça soit dans l'arrière-salle d'un bar à Liège ou dans une maison des jeunes de Limoges. Maintenant, j'en passe un peu moins parce que peut-être aussi je suis un peu plus aguerri. Et il y a une particularité qui me concerne. Je vous demande pardon de me mettre en avant. Tous les artistes que j'ai développés, et avec laquelle je suis allé assez loin, on va dire ça comme ça, c'est tous des artistes vers lesquels je suis allé. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, toujours et encore, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble ? Et ben, 10 fois sur 10, c'est non.
Il faut que l'envie vienne de vous.
Ouais, il faut que ça vienne de moi, c'est terrible, hein, c'est un peu égoïste, hein, c'est pas bien.
Mais c'est ce qui vous motive après à les aider à se développer.
C'est ce qui me motive, c'est ce qui me motive, vraiment. Vraiment, vraiment, on prenait le cas de ce garçon, la Reda Siddiqui, je l'avais vu sur des scènes ouvertes, il était pas très bon, bon, bref, passons. Puis un beau jour, boum, je le rencontre dans Paris, et il me dit, ah, mon spectacle est fini, voilà, je me suis dit encore un. Et je suis allé voir ce spectacle qui venait juste de jouer, et je l'ai vu, donc, jouer pour la première fois son entièreté. Et là, je suis ressorti un peu abasourdi, parce que je voyais donc d'énormes potentialités dans les années et mois futurs, les mois et les années futures. Et puis, je voyais quelqu'un qui se distinguait des autres, et en sortant de scène, je lui ai dit, écoute, il y a beaucoup, beaucoup de travail, mais je crois que toi, Reda Siddiqui, c'est dur ce que j'ai dit, hein, si tu viens de signer l'acte de décès du Jamel Comedy Club. Et voilà.
Ça fait mal.
Et ouais, ça fait mal, hein, ça fait mal. Et c'est vrai que chaque soir où il le joue, il le prouve, parce que je réitère, sans être laudateur, hein, je suis lucide, hein, c'est dur, mais c'est un philosophe qui est sur scène, et plutôt que de travailler sur la vanne, il travaille sur la pensée. Et là, on n'est plus dans le même monde. Donc ça veut dire quoi ? Que ce garçon a des particularismes.
Pour le découvrir, il a fallu avoir la curiosité que vous avez, d'aller dans ces petites salles.
Oui, le concernant, par exemple, il m'a dit « Oh, je joue dans une salle qui va peut-être pas correspondre à mon spectacle. » Je trouvais ça que c'était un peu outrecuidant de sa part. Et puis, ce que je fais jamais, je lui dis « T'as un titre à ton spectacle ?» Il m'a dit « Oui, ça s'appelle Lettre à France. » Alors tout ça, ça a aiguisé, oui, effectivement, vous avez raison, ma curiosité. Voilà.